l'infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout pour fabriquer une bombe.
Salut toutes et tous, vous êtes en direct de Radio Méga à Valence, en différé sur Radio Dewa à Die et Radio La Web Radio basée à Diolfi. Atomic Mac est une émission antinucléaire mensuelle réalisée par l'association Arrêt du Nucléaire. Drôme Ardèche, nous allons consacrer cette émission à Christina Firmino. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de la projection de son film qu'elle a réalisé. Cette projection a eu lieu le 11 avril au Luxe à Valence. Le docu-fiction s'appelle « Retour à la normale ». L'équipe Atomic Mac est complète. Dominique, Jean-Pierre, Georges, Kim et Gérard sont au micro et à la régie. Bienvenue aux auditrices et auditeurs fidèles des radios libres. Georges, c'est à toi pour ton billet. Bonjour.
Bonjour auditrices et auditeurs. Encore du nucléaire qui se développe au Japon et des infos sur la sécurité de la centrale de Zaporizhzhia. Alors tout d'abord, le Japon. Alors, nouvel espoir au Japon pour allumer la plus grande centrale nucléaire du monde. C'est le titre de l'article des Échos du 16 avril qui salue la relance de la centrale de Kashiwazaki, Kariwa, validée par le régulateur. En effet, après plus de 10 années de batailles politiques et techniques, des employés du géant japonais de l'électricité TEPCO ont commencé à charger lundi soir des assemblages de combustible dans l'un des 7 réacteurs nucléaires de la plus grande centrale au monde située dans la préfecture de Niigata, sur la côte ouest du Japon. Le groupe croit pouvoir obtenir dans les prochains mois l'ultime feu vert politique nécessaire au rallumage de plusieurs tranches de son site de Kashiwazaki Kariwa, qui avait été éteint, comme tous les autres réacteurs de l'archipel, dans les mois qui avaient suivi la destruction de sa centrale de Fukushima Daiichi en 2011. Alors, l'autorité de régulation du nucléaire japonais, NRA, a validé la charge du réacteur 7 de cette centrale géante qui affiche, avec ses 7 tranches, une puissance totale installée de 8 gigawatts. Ce que j'en dis, c'est quel espoir reste-t-il au peuple japonais encore traumatisé et empêtré dans les suites du séisme vécu à Fukushima en 2011. Maintenant, la sécurité de la centrale de Zaporizhzhia. Selon la dépêche du 7 avril, cette centrale nucléaire en Ukraine a été de nouveau visée par une attaque drone dimanche 7 avril. D'après les autorités pro-russes ayant le contrôle actuel de la centrale, la frappe qui a visé le dôme du 6e réacteur de l'installation n'a fait aucun réel dommage. Moscou et Kiev se rejettent mutuellement la responsabilité de cette attaque, d'après TF1 du 16 avril. Raphaël Grossi, chef de l'AIEA, a déclaré que ces attaques irréfléchies, les premières à viser directement la plus grande centrale d'Europe depuis novembre 2022, doivent cesser immédiatement lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dédiée à cette question. Bien qu'heureusement, elles n'aient pas provoqué d'incident radiologique cette fois-ci, elles ont largement augmenté le risque à la centrale où la sûreté nucléaire est déjà compromise. En commentaire, il ne faut pas oublier que ce même Raphaël Grossi a rencontré à Sotchi le 7 mars Poutine. Leur discussion ayant alors porté sur les mesures à prendre pour garantir la sécurité de cette centrale à l'arrêt, mais aussi en cas d'éventuel redémarrage, d'après Euronews du 16 avril. Dans un autre billet, j'évoquerai, d'après l'ANDRA du 13 février, la gestion actuelle et en devenir des déchets radioactifs, primordiales dans un pays à haute activité sismique. Malgré tout, comme en France, le stockage géologique est retenu. Et oui, hélas.
Merci Georges. Le 11 avril, donc, comme nous le disions, le réseau Arrêt du Nucléaire 2607 a organisé avec ses partenaires au Luxe à Valence la projection du film de Cristina Firmino, Retour à la normale. Ce docu-fiction imagine qu'après un accident nucléaire, la population est dans un premier temps évacuée, puis invitée à rentrer. Avant la séance, nous avons interviewé la réalisatrice. Cristina, après une catastrophe grave dans une centrale nucléaire, peut-on demander à la population, comme on l'a fait à Fukushima, de rentrer et de reprendre la vie comme avant? Qu'en est-il des normes à respecter?
Eh bien, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé quand j'ai réalisé ce film « Retour à la normale » en 2019. C'est-à-dire que du coup, je me suis posé la question, est-ce que après un accident nucléaire grave en France, on pouvait s'imaginer que la vie serait comme avant? Et en me documentant justement sur les accidents nucléaires qui ont eu lieu dans le monde, à Tchernobyl notamment, et puis à Fukushima, que en fait, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Parce que effectivement, la stratégie des politiques avec les scientifiques qui sont embauchés par eux, c'est de changer les normes de radioactivité.
C'est-à-dire les seuils acceptables.
Voilà, tout à fait, les seuils acceptables, de les augmenter. Et toute cette technique de dépollution qu'on a pu voir notamment à Fukushima est tellement... c'est un travail de Sisyphe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence, mais il y a la radioactivité qui se repose de nouveau. Enlever quelques centimètres de terre, qu'est-ce que ça veut dire? Stocker des ballots de terre sur d'immenses hectares, est-ce que ça enlève la radioactivité? Je ne pense pas qu'on puisse revenir... En tout cas, à ce que c'était avant un accident grave nucléaire. Aujourd'hui, on est effectivement dans un pays, en tout cas la France, qui est un des plus nucléarisés d'Europe, voire du monde. Il y a des taux de radioactivité dont on n'a pas conscience, qui sont très peu mesurés, très peu rendus publics, même s'il y a...
voire répertoriés.
Tout à fait, même s'il y a des laboratoires comme la CRIRAD qui travaillent à ça. Et du coup, on n'a pas conscience parce que c'est quelque chose qui ne se sent pas, qui n'est pas perceptible, qui ne fait pas mal tout de suite, mais qui a des conséquences au niveau de la santé dont je n'avais pas conscience avant de me documenter pour ce film.
Vous prenez conscience de ce phénomène, vous faites du camping et à un moment donné, il y a une sirène qui sonne et instinctivement, vous avez peur.
Alors, il s'avère que c'était un exercice de pompier. Donc, il n'y avait aucun danger, mais c'était la première fois que je me retrouvais au réveil face à quelque chose qui m'alerte qu'il y a un danger. Et cette prise de conscience, j'étais pas loin de la centrale du Bugey, me fait prendre conscience que, ça peut arriver, en fait, un accident là, à proximité. Et moi, qui suis à côté, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Comment je me protège? Je suis en camping, je suis loin de chez moi. Du coup, le confinement, ça ne marche pas. Je suis à vélo, donc partir vite, ça ne marche pas non plus. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que je sois gravement contaminée, enfin dans une espèce de peur un petit peu...
Une peur panique ou...
Non, une angoisse, on va dire, plutôt face à cette incompréhension de qu'est-ce qu'était cette sirène. Mais après, du coup, après coup, parce que bon, rien de grave s'est passé ce jour-là, je me suis dit, mais si un jour ça arrive, quel comportement on doit avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut... et est-ce qu'il y a vraiment des possibilités que ça arrive un jour? Et si ça arrive, quelles sont les conséquences sur nos vies, aux uns et aux autres, selon les vies qu'on a? Qu'est-ce que ça va produire? Et qu'est-ce que le gouvernement, au vu de l'histoire des différents accidents nucléaires qu'il y a eu dans le monde, va mettre en place pour nous faire accepter que c'est des choses qui sont normales, oui, qui peuvent arriver?
C'est-à-dire que l'exceptionnel peut devenir la normalité?
Tout à fait.
Madame, monsieur, bonsoir. La France est-elle en train de vivre son premier accident nucléaire? La question se pose après la succession d'incidents la nuit dernière dans le réacteur numéro 1 de la centrale. L'exploitant assure que...
À la télé, ils ont dit que ceux qui vivaient à 10 km devaient être évacués et ceux qui vivaient à 20 km devaient s'y préparer, mais moi, je ne sais même pas à quelle distance on était.
Après un accident nucléaire, l'environnement est contaminé par tout un tas d'éléments radioactifs. La contamination peut être importante, y compris à 100, voire à 200 km.
Les mesures doivent être vraiment très, très extrêmes, si on veut bien protéger. Et si on les prend, alors tout le monde se met à avoir peur.
Et la radioactivité, t'y penses ?
T'as que ce mot-là à la bouche, toi. Bah, tu vois, je l'oublie. Je passe même mon temps à l'oublier, parce que... Bah, c'est impossible de vivre avec ça, sinon tu deviens fou. Hein.
Le problème en cas d'accident nucléaire, c'est que les victimes, on ne les voit pas. On sait que ça fait des morts, mais il n'y a pas de cadavres. Donc, c'est le crime parfait.
Vous les connaissez, vous, les responsables, c'est qui ? Les sous-traitants, les chefs d'équipe, le gouvernement, c'est qui ?
Monsieur le ministre, après cet accident, la France va-t-elle, oui ou non, sortir du nucléaire ?
Ce que vous venez d'entendre, c'est le son de la bande-annonce du docu-fiction Retour à la normale. Et maintenant, dans la suite de l'interview, Christina revient sur les différents plans de l'évacuation des populations riveraines de la catastrophe, tels qu'on peut supposer qu'ils ont été mis en place.
Il y a quand même des plans d'évacuation.
Oui, le fameux plan Orsiac-Rade.
C'est ça. Ouais. Mais qui délimite une zone géographique.
De 5 km autour
voilà,
de la
centrale. Voilà, c'est ça. Et après, qui peut s'étendre plus ou moins selon l'impact réel de l'accident. C'est ce qu'on a pu constater, observer à Fukushima. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas évacué les gens. Puis petit à petit, on s'est dit que ça serait quand même bien de les évacuer, vu qu'on est... On n'est pas connaisseur, en fait, de ce que peut produire la radioactivité. Et ça, je crois qu'il faut rester humble là-dessus. C'est qu'on a produit une énergie dont on ne maîtrise pas toutes les conséquences, si jamais ça dérape. Et ces périmètres d'évacuation, ils paraissent un petit peu ridicules, vu que la radioactivité se diffuse avec l'air, le vent, peut aller sur des zones beaucoup plus étendues. On l'a vu avec Tchernobyl, le nuage ne s'est pas arrêté aux frontières, il est venu jusqu'en France, même jusqu'en Corse, et tout au nord de l'Europe. Donc du coup, on voit bien que, d'après ces expériences, que ça ne peut pas se limiter à des cercles circonflexes.
Surtout dans la vallée du Rhône, parce qu'il y a 14 réacteurs en vallée du Rhône, avec les vents nord-sud, sud-nord, ça ne peut pas rester sur place. Quoi.
Non. Je ne vois pas comment ça peut rester sur place, parce qu'on ne maîtrise pas le vent, on ne maîtrise pas les nuages, la pollution se diffuse dans l'air et à un moment donné, l'air, on ne le maîtrise pas. Et donc, c'est comme ça que ça se répand. Et des gens qui sont des fois à des milliers de kilomètres de l'accident finissent par être contaminés ou en tout cas impactés par l'accident alors qu'il n'y a aucune mesure d'évacuation qui est prise pour eux. Parce qu'on se dit que voilà, c'est le plus proche qui d'abord, ce qui est bénéfique d'évacuer déjà la population la plus proche, mais c'est assez ridicule face à l'étendue que peut prendre la pollution radioactive quand il y a un accident grave. Quoi.
Oui, comme on aura mis la norme, qui à l'heure actuelle est à 0,1, on va la mettre à 10, à 20, à 100 pour travailler l'acceptabilité, si je ne veux pas y aller... Je suis considéré comment ? Un réfractaire à minima, ou un asocial, ou un malade mental
C'est tout le problème, en fait. C'est que, du coup, le mythe du nucléaire sans danger, il s'est fondé là-dessus, sur le fait que... On a considéré que la peur de la population face à cette énergie était fondée sur des choses irrationnelles. Alors que... À mon avis, il faut écouter quand même nos peurs. Elles parlent de ce qu'on est et de ce qu'on vit. Donc, à un moment donné, si on a peur, il y a des raisons. Et des raisons qui sont à prendre en compte. Donc, si un jour ça arrive et qu'on on change les normes et qu'il y a des personnes qui ne veulent pas accepter, en fait, on fera... Je suis pas sûre que les politiques et les personnes qui fixent ces normes prendront en compte ces personnes-là. la seule solution, ce sera de partir et d'abandonner tout ce que vous avez construit là où vous avez vécu pendant un certain temps. Et c'est ça qui est difficile, c'est aussi de se dire que si un jour ça arrive, en fait on se retrouve soit avec le choix d'accepter ces normes et de vivre dans un danger plus ou moins grave d'atteinte à notre santé, ou alors de partir en exil et de tout d'abandonner toute l'histoire qu'on a construite du lieu là où on a vécu jusqu'à présent. Et c'est un choix qui est impossible à faire. Oui.
Mais si on nous empêche de partir, c'est pas venu comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va nous dire, on va fixer les populations sur place à partir du moment où les normes, maintenant le sang, ça sera le zéro. Donc la loi, c'est la loi, tu restes là.
Ouais, ben j'espère qu'on aura pas à vivre ce genre d'épisode, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'effectivement les constructions, enfin le développement du nucléaire en France, notamment tout le plan Messmer qui a eu lieu à partir des années 70, a été accompagné par des mouvements de réticence de la population locale, dont la plus connue est Plogoff, qui a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de centrale construite là-bas, mais... C'est des pans de l'histoire qu'on efface. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a ancré dans l'esprit collectif que c'était acceptable et que c'était sans danger. Et que et vous parliez d'attaches, il y a des attaches économiques. C'est-à-dire qu'on a rendu aussi les populations locales dépendantes de ces industries, parce que souvent, c'est des travailleurs qui travaillent ou qui sont en lien avec cette industrie. Et qui du coup ont du mal à s'en passer ou du mal à avoir un regard critique aussi par rapport à ce qui s'y passe ou par rapport à ces normes qu'ils subissent et qui du coup sont eux les premiers impactés par cette industrie. Avant même nous, la population qui vivons dans les environs, eux ils y vont tous les jours et c'est eux qui sont au premier plan.
Oui, c'est-à-dire ils sont addicts quoi.
Addicts, je dirais pas ça, mais en tout cas ils ont eu besoin de bosser à un moment donné et on leur a dit que c'était possible de bosser et avec une bonne rémunération. Mais quelles en sont les conséquences, ça, on leur cache un petit peu les D'accord. choses.
Voilà. Je vous propose une pause musicale. Nous vous proposons une pause musicale. Alors, choisie par quelqu'un qu'on n'entend jamais à l'antenne, mais qui est indispensable au fonctionnement de notre émission, comme de toutes les émissions de Radio Méca et de toutes les radios libres, c'est Georges. Pas Georges.
Je suis là, mais bon, c'est pas moi.
C'est Jean-Pierre qui choisit tous les premiers lundis du mois la pause musicale. Et aujourd'hui, il a choisi Georges Chelon. C'est pour ça que je pensais à Georges, parce que c'est Georges Chelon qu'on n'entend plus beaucoup sur les ondes, avec son titre « Nucléaire ».
J'ai casé toutes mes femmes, elles sont mariées ou presque, un enfant, un boulot, une nouvelle adresse. Quand je les entendais dire que j'étais tout ce qu'elles avaient, j'ai redouté le pire quand elles m'ont quitté. Pas le temps de fermer la porte, de pousser un soupir, de réinvestir mon lit, de réapprendre à dormir. Qu'il y avait déjà des mecs pour les prendre dans leurs bras et pour leur faire un gosse, elles qui n'en voulaient pas. Rapport au nucléaire. Celle qui voulait me traîner toutes les nuits dans les boîtes, bien avant Joe le taxi et la fille à la ouate, qui avait fait Woodstock comme d'autres ont fait Verdun, qui se shootait au rat, qui s'éclairait au joint, qui se prenait pour une fleur en rêvant de Kathmandu, de Sri Aurobindo, son guide et son gourou. Je l'ai croisé dans le 16e, déguisé par Van Cleef. On s'était rencontrés un jour dans une manif contre le nucléaire. Un jour, on s'aime, ma vie, ma reine. Et puis, on se perd. Et c'est la guerre comme pour le nucléaire. Je vais la paix dans la. Dans le dos. J'ai marié toutes mes femmes, j'ai bien fait mon boulot. J'ai plus mauvaise conscience, plus de culpabilité. je pense, j'ai plus à m'inquiéter. Mais le lit d'à côté, c'est le même qu'en face. Et ce qui nous fait peur, c'est tout ce temps qui passe. On n'a plus la fraîcheur, c'est plus la même chanson. On a tout intérêt à faire des concessions. Je vais fumer un pétard en écoutant un disque. Je dois avoir quelque part un vieux titre d'Elvis. Je vais relire des jardins et puis me payer une boîte. Et dès demain matin,
quand on finit un film comme le vôtre, qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui change en soi quand on a fini ce travail qui ne se fait pas en deux temps, trois mouvements?
Ah non, c'est un film qui m'a pris 5 ans quand même dans ma vie, parce que je me suis beaucoup documentée. Je savais que je m'attaquais à un sujet qui n'était pas facile, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des connaissances, se plonger dans des rapports scientifiques, dans des connaissances physiques, dans des connaissances économiques, politiques, etc. Et au niveau de la santé, de la médecine, il y avait quand même pas mal de choses à savoir. Ce qui a changé, c'est que je peux plus être une autruche. C'est-à-dire que je ne peux plus me voiler la face et me dire que c'est une industrie qui va être notre salut par rapport au gaz à effet de serre, par exemple. C'est quelque chose que... À chaque fois que j'entends les infos qui, du coup, vont dans ce sens-là...
L'énergie décarbonée...
Voilà, exactement. J'en ai des frissons parce que, en fait, je me dis, mais en fait, on va encore développer cette industrie-là. Et surtout, on va encore remettre énormément d'argent dans cette industrie-là. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on ne mette pas cet argent ailleurs, dans la recherche d'autres énergies. Il n'y a pas d'énergie verte qui ne pollue pas. Il y a forcément un degré de pollution. Mais c'est où est-ce qu'on place le curseur dans la pollution acceptable, où on prend trop de risques avec le nucléaire, ouais. J'ai l'impression quand même. Ouais. Parce que c'est de la mine, de l'extraction de l'uranium jusqu'à justement le retraitement, ou en tout cas le conditionnement des déchets. Si on voit tout l'impact, c'est quand même assez énorme. Donc elle est peut-être décarbonée, mais elle n'est pas verte du tout. Et on ne peut pas dire qu'il y a une énergie verte, mais... Si les moyens qu'on mettait dans le nucléaire, on les investissait dans des recherches pour trouver des énergies ou des solutions qui ne sont pas des solutions à court terme, mais justement qui nous permettent de voir un peu plus loin et dans une perspective de préparer quelque chose auquel on va pouvoir s'adapter. Le problème du nucléaire, c'est qu'on ne peut pas s'adapter, en fait. Il est tellement... la radioactivité pose un truc tellement énorme, dur, fixe, avec lequel on peut pas jouer, on ne peut pas modeler la situation. S'il y a de la pollution radioactive, on ne peut pas dépolluer comme ça. Enfin, on n'a pas les connaissances, en fait. Donc si on investissait l'argent sur des choses qu'on connaît un peu mieux, qu'on maîtrise un peu mieux, je trouverais ça plus intelligent, j'avoue.
Nous sommes toujours en compagnie de Christina Firmino, réalisatrice du film Retour à la normale. Et pour terminer cette interview, Christina, après ce film, quels sont vos projets?
Alors, j'ai un projet de court-métrage que j'aimerais réaliser avec des jeunes sur l'éco-anxiété, qui est donc, on va pas dire que une espèce de suite, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis rendu compte en réalisant Retour à la normale qu'effectivement la peur était, ou en tout cas l'angoisse que génèrent certaines pollutions, certaines situations du climat, face au climat ou face au changement, ou en tout cas face à des choses qui nous bouleversent, n'était pas considérée comme quelque chose d'entendable. Et ce phénomène donc de l'éco-anxiété est apparu, on l'a nommé, on va dire, il y a quelques années. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que au début où on a nommé le mot avec le mot éco-anxiété, les symptômes donc de personnes qui angoissent face à la situation climatique du monde et face au bouleversement et qui du coup sont submergées par une angoisse, mais voire un désespoir, qui en arrive même des fois au suicide, ne trouvant pas de solution et se retrouvant devant aussi des politiques et des personnes qui ne changent rien à la situation, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'appels à ce que ça change. Et au début où je me suis intéressée à ça, on parlait d'éco-anxiété, donc on essayait d'expliquer. Et aujourd'hui, donc 3 ans après, on sort des livres pour soigner l'éco-anxiété. C'est-à-dire que, de nouveau, on ne prend pas la responsabilité collective, mais on la reporte sur l'individu. C'est-à-dire que c'est toi qui es anxieux, qui ne va pas bien, qui va devoir te soigner. Mmh. Alors que pour moi, quelqu'un qui est éco-anxieux est peut-être beaucoup plus sain. Et surtout, c'est un problème collectif, en fait. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire... c'est très bien les gestes individuels pour sauver la planète, mais en fait, ça ne suffit pas. Il va falloir, à un moment donné, prendre les choses en main face à ce problème du changement climatique et puis de toute une espèce de dépérissement de notre environnement naturel dont on dépend quand même beaucoup, que ce soit l'eau, la terre, l'air. On parle de beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a en plus, on a une masse d'informations qui arrive de plus en plus et on peut se sentir submergé face à ça. Mmh. Avec ce projet de court-métrage, donc ça serait un court-métrage fait avec des jeunes, donc de 15 à 25 ans, l'idée c'est de montrer qu'en fait, c'est légitime qu'ils soient inquiets.
C'est ça d'être inquiet.
Oui. Plus que de ne pas être inquiet dans une société, dans le monde dans lequel on vit.
Je suis frappée par le fait que beaucoup de jeunes découvrent dans un premier temps ces problèmes, s'y intéressent beaucoup, lisent Pablo Servigne, s'intéressent à la collapsologie, et puis après, au bout d'un moment, décident de ne plus écouter les informations et de se couper de tout ça et de vivre au présent en essayant d'occulter tous les problèmes.
Ben, c'est une des solutions pour se soigner de l'éco-anxiété, en fait. C'est textuellement indiqué dans les bouquins qui sortent donc, en ce moment, de moins écouter les infos, de faire un petit jardin, de consommer sans faire de déchets, de trouver peut-être une association qui ramasse des déchets vers chez vous ou avec qui vous pouvez manifester quand même votre mécontentement. Ça fait partie des solutions, mais pour moi, ça ne suffit pas, en fait. C'est absurde, en fait. Il y a un côté absurde de faire reposer des choix qui, en plus, n'ont pas été choisis par la population. Enfin, nous n'avons pas choisi tout ça et on ne nous demande pas notre avis. Et à un moment, quand on l'exprime, on nous dit « Non, mais c'est vous qui êtes malade ». Il y a un truc qui ne fonctionne pas dans
si
la...
Si vous n'êtes pas résilient, c'est que vous êtes malade.
Ça ne va pas. Et c'est assez terrible parce que du coup, on en arrive aussi à donner à une population très jeune de la médication, des antidépresseurs, des choses qui les rendent aussi encore dépendants d'une nouvelle substance et qui les coupent en fait de leur... de leur réflexion, de leur sensibilité, de ce qu'ils sont et de leur et comme encore une fois de la légitimité à ce qu'ils soient comme ça, parce que c'est effectivement tout à fait normal. Alors j'aime pas trop ce mot, mais c'est tout à fait sain, peut-être c'est le bon mot, de pas être à l'aise ou en tout cas d'avoir peur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Soit pour soi, soit pour les proches, soit si on a des enfants pour nos enfants. Enfin, et comment à cet âge-là, donc quand on a 20 ans, qu'on est dans des moments où on doit se projeter vers l'avenir, comment pour... Enfin, moi, je suis très touchée par cette jeunesse parce que je me dis, mais comment peuvent-ils se projeter ? C'est complètement... Je me mets à leur place, je me dis, c'est complètement impossible. J'aurai 20 ans aujourd'hui, je serais éco-anxieuse, je serais peut-être sous antidépresseur, je ne sais pas, ou alors à manifester avec les mouvements du climat, mais en tout cas, ce que je disais à une amie hier soir, je pense que si je n'avais pas eu d'enfant, je deviendrais éco-terroriste, comme on aime bien le dire de nos jours, par rapport aux militants qui ne terrorisent personne, mais juste manifestent leur désaccord avec certaines décisions faites face à l'environnement. Mais je ne pourrais pas rester les bras croisés face à tout ça, c'est sûr.
Alors, une dernière petite question. Est-ce que vous avez continué à faire du camping sauvage?
Oui, quand même. Mais pas dans le budget, je crois. Non, j'avoue que aussi ce qui a changé dans ma vie, c'est aussi cette prise de conscience m'a fait dire que je n'avais pas envie de vivre à côté d'une centrale nucléaire. Donc j'ai déménagé dans une région, on va dire, où s'il y a un accident, je serais peut-être impactée. De toute façon, il n'y a aucune région en France où on ne peut pas être impacté. Mais vivre à côté d'une centrale, ou en tout cas à très peu de kilomètres, ça n'a plus été possible pour moi.
Chers amis auditrices et auditeurs, si vous avez envie de rejoindre Arrêt du nucléaire 2607, eh bien notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 8 mai à 18h30 au 19 rue Mozart. Et sinon, dans l'agenda, eh bien pas grand-chose à vous dire ce mois-ci. Soyez présents samedi et dimanche 18 et 19 mai à la foire éco-biologique de Nyons.
Où nous aurons un stand.
D'accord. Voilà. Eh bien, il y a l'agenda de Kim maintenant. Hein? Kim, qu'on ne voit pas souvent, mais qu'on verra un jour.
Je préfère lever d'emblée tout malentendu. Loin de moi l'idée qu'être jeune, ce serait mieux qu'être vieux. Cela dit, cette question... Pourquoi n'y a-t-il pas plus de jeunes dans le mouvement antinucléaire ? Semble légitime. Que se cache-t-il donc derrière cette question ? Tout d'abord, le constat d'une absence de renouvellement des générations de militants et militantes. Certaines personnes que j'ai côtoyées s'engagent depuis 40 voire 50 ans contre le nucléaire, en ayant connu plus de défaites que de victoires malheureusement. Comment alors ne pas ressentir de la lassitude ? Sans renouvellement, une lutte peut même finir par être abandonnée, voire oubliée. Si par simplification on parle du mouvement antinucléaire, ses composantes sont, elles, très variées. Europe Écologie Les Verts, le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, la France Insoumise, Greenpeace, le réseau Sortir du Nucléaire, le collectif Arrêt du Nucléaire, dont notre association fait partie, voici quelques-unes des organisations notoirement opposées au nucléaire. Remarquons aussi qu'elles ont pour point commun de n'être d'accord sur rien. Les différences idéologiques sont en effet très marquées, ne serait-ce que sur la bombe nucléaire, sur les alternatives au nucléaire, ou encore sur l'échéance d'arrêt du nucléaire. Pour compléter, je me permets de citer Gaspard Dalens, auteur d'une tribune publiée en 2017 dans Reporter et intitulée « Le mouvement antinucléaire est trop vieux, il doit se réinventer ». Le nucléaire n'est pas seulement une énergie, c'est un ordre social, un monde marqué par l'extractivisme, l'omniprésence de l'État, le règne de l'oligarchie, la militarisation. C'est contre ce monde qu'il faut se battre, contre sa volonté de faire de nous des bêtes sous contrôle, de nous déposséder de nos facultés d'agir et de penser. Il est étonnant d'entendre si peu parler d'émancipation dans la lutte antinucléaire. Fin de la citation. Il ne suffit donc pas, à mon avis, de critiquer l'énergie nucléaire pour réclamer des énergies renouvelables. Il s'agit aussi de critiquer la société de consommation dans laquelle l'énergie nucléaire nous enferme, de critiquer la politique néocoloniale menée par l'État français et dont l'industrie nucléaire se fait l'instrument, notamment au Niger, de critiquer une société dirigée par une élite de bureaucrates et d'ingénieurs, pilotée à coups de tableur Excel. Pour s'opposer au nucléaire, d'autres dynamiques existent, hors des partis politiques et des ONG, notamment à Bure contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Le camp des Rayonnantes, près de Bure en 2021, les rencontres printanières anti-autoritaires et contre le nucléaire, en avril dernier, le Festival Les Burlesques, dont la 4e édition aura lieu en août prochain. Voici quelques-uns des événements où l'on cherche à construire un monde, pas seulement centré sur une critique du nucléaire, mais dans lequel on reconnaît que les oppressions sexistes, racistes, de classe, non seulement existent, mais traversent aussi nos luttes et nos relations. S'il est légitime que l'on se demande pourquoi il n'y a pas plus de jeunes dans les organisations antinucléaires, On pourrait aussi se demander pourquoi il n'y a pas plus de personnes racisées. Ou encore pourquoi, parmi les personnalités antinucléaires médiatiques, il n'y a quasiment que des hommes. Si telle ou telle organisation ignore ce sujet, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles de nouvelles personnes rechignent à les rejoindre. Si ce type de questionnement traverse de manière insistante de nombreux collectifs militants dits « jeunes », il me semble absolument nécessaire que nous nous en emparions toutes et tous.
Merci Kim, et maintenant avec sa rubrique à braque, Georges.
Oui, rebonjour. Les actualités, d'abord dans cette rubrique à braque, les actualités de la centrale de Cruas. Alors la CLI découvre les chantiers à venir avec la quatrième visite décennale. Alors la CLI, c'est la commission locale d'information qui est composée en partie d'élus locaux. Alors la question que je pose, c'est pourquoi seulement une visite de ces élus ? En effet, selon le texte sur le site EDF de la centrale, je cite, « Les élus locaux, membres de la commission locale d'information de la centrale de Cruas-Metz, ont pu visiter cette centrale le 12 mars dernier à l'issue d'une réunion plénière de cette fameuse commission, CLI. La réunion a été l'occasion de partager des informations sur le chantier à venir de la quatrième visite décennale de l'unité de production numéro 3 qui commencera en août 2024. Une visite décennale est un check-up complet des installations. Elle s'enrichit en outre des modifications majeures de l'unité de production, d'un test complet de l'intégrité du circuit primaire, d'une épreuve d'étanchéité de l'enceinte de confinement et du remplacement de 3 générateurs de vapeur et de 2 rotors basse pression de la turbine. En somme, des travaux très significatifs qui ont fait l'objet d'échanges précis et documentés. Alors, la commission locale d'information est régulièrement invitée à visiter les installations de la centrale, notamment lorsque les phases de maintenance des gros composants du site permettent d'organiser une visite sur mesure. Ça, c'est ce que dit EDF. Actualité de la centrale du Tricastin. En décembre 2023, lors d'un essai visant à s'assurer du bon fonctionnement du matériel, la butée mécanique, déjà changée dans le cadre d'une opération planifiée, de la vanne du système d'alimentation en eau brute généralisée, SEG, de l'unité numéro 1 est de nouveau détériorée. Celle-ci est remplacée de manière réactive. Enfin, le 28 mars, l'unité de production numéro 1 est en fonctionnement. Lors d'une visite terrain, les intervenants constatent que la butée de la vanne est de nouveau dégradée, avec pour conséquence un débit de fonctionnement minimal de la pompe liée, à cette butée, ne pouvant plus être assurée. Ce qui n'est pas autorisé par les spécifications techniques d'exploitation lorsque le réacteur est en fonctionnement. Alors bien évidemment, cet événement n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté des installations. Que dit EDF ? La vanne étant toujours restée fonctionnelle. Et bien sûr, d'autres moyens d'alimentation en eau toujours disponibles. Toutefois, en raison du non-respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d'exploitation, la direction de la centrale du Tricastin a déclaré le 18 avril à l'ASN, autorité de sûreté nucléaire, un événement significatif sûreté au niveau 1 sur l'échelle INES qui en compte 7. En commentaire, le système SEG étant le moyen ultime d'alimentation en eau d'une citerne de secours dans la piscine du bâtiment combustible, utilisée en situation accidentelle. Et bien que les autres moyens de refroidissement étaient quant à eux pleinement disponibles selon EDF, comment écrire que cette vanne, dont le débit minimal de la pompe n'est plus assuré, que donc cette vanne est toujours fonctionnelle ?
Eh bien, la question est posée, la réponse va nous venir,
j'espère. Je l'espère fortement.
Très bien, merci Georges. Alors, tous les questionnements sur ce sujet du retour à la normale dont on a traité avec à partir du film de Christina Firmino, vous pouvez aussi les retrouver dans un livre, il s'appelle « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs », écrit par Thierry Ribaud, qui est chercheur en sciences sociales au CNRS. Il vivait au Japon, d'ailleurs, pendant la catastrophe de Tchernobyl, de Fukushima, la catastrophe nucléaire de Fukushima. Thierry Ribaud écrit « Funeste chimère parvenue au rang de technique thérapeutique face au désastre en cours et à venir. La résilience érige les victimes en co-gestionnaires de la dévastation. Et c'est normal qu'ils soient éco-anxieux après, hein, je veux dire, comme disait Christina tout à l'heure. Alors, vous pouvez trouver ce livre aux éditions L'Échappée. En lisant ce texte tout à l'heure, je me suis souvenu des victimes des deux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, au Japon toujours. Ces victimes qui étaient stigmatisées et baptisées Ibakusha, qui ont été peut-être, ce sera peut-être une pause musicale la prochaine fois, Colette Mani a chanté Ibakusha. Alors Thierry Ribaud a coécrit aussi avec son épouse qui est décédée, Nadine, des sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima, aux éditions L'Encyclopédie des Nuisances.
Eh bien, pour conclure cette émission, retrouvez toutes les infos du réseau Arrêt du Nucléaire 2607 au 08 05 69 67 58. Il y avait aujourd'hui Jean-Pierre à la technique, Georges et Kim pour la rédaction des billets et aux interviews Gérard et moi-même Dominique. Un grand merci à Christina Firmino, aux organisateurs et organisatrices de la soirée et à l'équipe du Luxe à Valence. Atomic Mac est réalisé le premier lundi du mois. Rendez-vous donc le lundi 3 juin. Voilà, l'enregistrement se fait en direct à Radio Méga 99.2 à Valence. L'émission est rediffusée sur Radio Diwa, Adi et sa région le vendredi à 12h15, 101.7 et 107.5, et à Radiola, basée à Dieulefi, une web radio sur radiola.media. Merci, auditrices et auditeurs, d'écouter Atomic Mac sur les radios libres.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. Thank you.